Un accident de la route coûte la vie à un homme à Weilou. Les conditions de la prise en charge de la victime ont été rendues difficiles avec des individus alcoolisés sur les lieux du drame. L'espérance ne déçoit pas. L'événement a été à la hauteur de leurs attentes. Le pèlerinage de Téné 2025 s'est achevé ce dimanche. Plus d'un millier de participants présents pour la grand-messe à Bouraille. 23 navires se sont élancés dans l'aventure de la New Caledonia Groupama Race. Un défi à la voile pour les équipages partis ce matin à l'assaut du lagon. La fête des pères, c'était l'occasion de célébrer les papas avec de belles attentions ce dimanche. L'actualité à l'international, Emmanuel Macron veut apporter un message de soutien au Groenland. Le président est attendu aujourd'hui dans ce territoire du Danemark convoité par Donald Trump. Le sport, quand il n'y en a plus, il y en a encore du football. Le Paris Saint-Germain lance sa campagne en Coupe du Monde des clubs. Nouvelle formule, un premier duel en vue demain contre l'Atlético Madrid. Et le trail des Cagoux, 1200 coureurs étaient au rendez-vous aujourd'hui à Bouloupari au départ de la baie de Bouraquet. Bonsoir et soyez les bienvenus dans Info Weekend pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Ce week-end a donc été marqué par un nouveau drame sur les routes calédoniennes. Un homme est décédé ce matin à Weilou dans un accident de voiture dans des circonstances qui restent à déterminer, Léana Colombo.
Oui, la victime a été retrouvée morte près de Poro. Les secours sont parvenus à l'extraire de l'habitacle mais sans pouvoir le réanimer. Lors de leur intervention, les gendarmes ont été la cible de jets de pierre de la part d'individus alcoolisés présents sur place. Les forces de l'ordre ont alors pris contact avec les autorités coutumières pour apaiser la situation. L'intervention a ensuite pu reprendre. Le véhicule impliqué dans ce drame a été incendié. L'enquête devrait déterminer si l'homme décédé était le conducteur ou un passager du pick-up. Cet accident porte à 16 le nombre de morts sur les routes calédoniennes depuis le début de l'année 2025.
L'actualité religieuse, le rassemblement de Téné s'est achevé ce dimanche après le pèlerinage. Hier, plus d'un millier de participants étaient présents aujourd'hui pour la grand-messe sur l'hippodrome de Bouraille, tous heureux de partager ce grand moment de ferveur.
Pour moi, en tant que chrétien, c'est important, surtout en ce moment avec tout ce qu'on a vécu au niveau des émeutes. Et tout ce qu'on a vécu hier à l'Athénée où beaucoup de jeunes ont parlé de l'espérance.
Ça représente beaucoup de choses, d'autant plus qu'il y a le Monseigneur qui a été installé cette année. Ça représente beaucoup symboliquement. Qui anime sa première messe sur Athénée en tant qu'archevêque de Nouméa et de Nouvelle-Calédonie.
Je découvre, je trouve que c'est sympa, et très convivial et on se sent comme une grande famille.
Ce qu'ils ont vécu, ça a été fort et un jeune qui avait témoigné de Saint-Louis qui disait que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Donc malgré les émeutes, malgré les maisons qui ont brûlé, les églises qui ont brûlé, mais l'espoir il est toujours là, Dieu est toujours là. Donc c'est pour ça que c'est important d'être aujourd'hui à Téné avec tous les autres personnes, toutes les communautés.
On a vécu aussi les événements de l'année dernière. Et ben, aujourd'hui, ben, ça prouve qu'ils sont là encore aujourd'hui, même s'il y a eu des choses qui se sont passées, des maisons brûlées ou quoi que ce soit qui s'est passé. La prière, elle est toujours là pour continuer dans la vie.
Et la grand-messe de Téné était célébrée pour la première fois par Monseigneur Sione Poé en tant qu'archevêque de Nouméa. Pour lui, c'était une grande joie d'être présent au milieu de nombreux jeunes.
Aujourd'hui, c'est une grande fête. Et c'est toujours une fête de joie. Ensemble avec le diocèse, avec la jeunesse, en ce jour où nous célébrons la Sainte Trinité.
Quel est le message que vous avez voulu faire passer à travers votre homélie aujourd'hui?
Mais c'est surtout sur notre vie de chrétien, hein, pour l'objectif d'entrer en lien avec la Sainte Trinité, qui est un mystère d'amour, de rentrer dans cette circulation d'amour trinitaire. De vivre la communion, de savoir tisser le lien avec les uns des autres pour bâtir une société plus juste, plus fraternelle.
Et toute cette semaine d'enseignement, de rencontres et de partage a été une réussite selon le président du comité Marche pour Notre-Dame de Téné, Simon-Pierre Séluy.
Un bilan plus que positif et joyeux puisque nous voyons aujourd'hui, après une semaine de réflexion, Sur le visage des jeunes, nous ne pouvons que ressentir la joie et le sourire. Nous pouvons dire que le rendez-vous a été toujours respecté et nous tenons à remercier l'ensemble de tout le diocèse. L'invitation est d'ores et déjà lancée. Nous nous retrouvons déjà l'année prochaine.
Et un reportage signé Kelinda Boicou. Les différentes délégations venant des trois provinces se sont séparées vers 15h. Le comité Marche pour Notre-Dame qui a donc donné rendez-vous aux participants l'an prochain pour l'édition 2026 du pèlerinage de Téné.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu. À Bouraille, c'est le 99.
L'image du jour, 23 voiliers au départ de la New Caledonia Groupama Race. La 8e édition est lancée. Malgré une pluie fine, des rafales de vent, une mer agitée, les navigateurs se sont lancés sur un parcours exigeant de 654 000 nautiques, soit 1200 km. Ce départ était un soulagement après plusieurs années où le plus prestigieux événement pour la voile avait dû être reporté, selon Jean-Michel Calba, directeur général de Groupama Ganka Pacifique.
Beaucoup de fierté parce que nous avions annulé l'édition 2024 à cause des émeutes en Nouvelle-Calédonie. Et évidemment, la question s'est posée avec le cercle nautique calédonien si on allait faire une édition pour 2025. Et elle s'est décidée tardivement, mais on a pris cette décision. Les sponsors ont continué à nous suivre. Les équipiers étaient là et voulaient concourir. Et puis le public attendait ça parce que c'est un événement fédérateur depuis des années. Et je pense que les Calédoniens ont besoin de respirer un peu et de tourner un peu la page de ce qui s'est passé en 2024.
Installés au rocher à la voile, des centaines de personnes ont assisté au départ. Aux environs de 10 heures, malgré le mauvais temps, l'ambiance était au rendez-vous pour les passionnés et les curieux venus encourager les équipages.
Oh, le départ est parti de cette 8e édition de la Coupe Amarès. On veut du bruit, du bruit, du bruit, du bruit, du bruit. Bravo, les 140 marins.
Trop bien que les bateaux y font la course. Super vite.
Bien, bien, et puis on a eu la chance, ça n'a pas eu trop de pluie, quoi.
C'est super, c'est une belle manifestation et c'est sympa. Malgré le temps, mais il y a du monde et ça fait plaisir.
C'est la première fois que je participe à un départ de Groupama Race. Ça vaut le coup de venir.
Ouais, c'est joli de voir toutes les couleurs des voiles. C'est cool qu'il y ait du vent aussi pour eux.
Et pour les navigateurs, l'épreuve a commencé par un tour du Beticcio qui était présent dans le lagon, un passage au large du phare Amédée, puis le cap sur le Grand Sud. Les premiers écarts commencent déjà à se creuser. Bruno Condoya, président de la caisse locale Groupama Pacifique, analyse ce début de course.
Tout doucement, les distances s'allongent. Je pense que les stratégies de course vont se mettre en place pour la suite. Il y en a qui vont couper plus court pour jouer sur la distance, parce qu'ils arrivent à pouvoir avancer plus près des terres. Et je dirais les plus gros navires, notamment les étrangers, ils vont plutôt chercher le large pour tirer d'un seul bord et puis passer au sud assez rapidement. Les catamarans sont assez rapides, mais là, le néo-zélandais, là, c'est un monocoque. Il est complètement vide, il n'a pas d'équipement à l'intérieur, c'est une Formule 1, quoi.
Le trio de tête est actuellement mené par les Australiens de Rush Hour, tenant du titre, Hero Amens, suivi de près par les Néo-Zélandais de V5. Juste derrière, le Calédonien Kalolo qui reste en embuscade. La course ne fait que commencer. Nous ferons évidemment des points sur son évolution dans tous nos points d'information. Les leaders de l'épreuve ont déjà débuté la remontée de la côte est.
RRB, il est 17h53.
L'heure de voir de quoi la semaine qui vient sera faite. Le détail avec vous, Léana Colombo.
Mercredi, le 18 juin. Ce sera le 85e anniversaire de l'appel du général de Gaulle. Des commémorations auront lieu dans plusieurs communes du territoire. Mardi, la commune de Lifou vivra au rythme du mariage du fils du grand chef du district de Lossy. De nombreuses délégations sont arrivées sur place depuis plusieurs semaines.
Dans le reste de l'actualité, mercredi, la présidente de la province sud, Sonia Baquès, et le haut commissaire Jacques Billon visiteront un atelier d'insertion par l'emploi.
Jeudi matin, les élus de la province sud seront réunis en séance publique pour examiner les comptes administratifs et les comptes de gestion 2024. Le même jour, le conseil municipal de Dumbéa se réunira avec également à l'ordre du jour l'approbation du compte administratif et du compte de gestion 2024. Dans l'actualité sociale, Force ouvrière organise ce lundi une mobilisation devant le camp Est. Les personnels du centre pénitentiaire souhaitent exprimer leur soutien à leurs collègues de métropole qui manifestent également ce week-end, notamment pour une amélioration de leurs conditions de travail. Enfin, le week-end week-end prochain sera marqué par la fête de la musique, soit le samedi 21 juin. De nombreuses animations musicales sont prévues, notamment dans les communes du Grand Nouméa.
Vos rendez-vous d'antenne, quelques jours après l'annonce faite par le haut-commissaire de nouvelles aides pour la commune du Mont d'Or, avec des subventions de plus de 73 millions de francs dans le cadre de la reconstruction et de la réhabilitation des équipements publics dégradés ou détruits pendant la crise insurrectionnelle. Nous reviendrons dans le détail sur ces annonces. Notre invité du matin sera Elisabeth Rivière, le maire du Mont d'Or, demain à 7h30. À la fin de ce journal, ne manquez pas la rediffusion du magazine Transparence. Quelques jours après son retour de Paris, c'est le député de la première circonscription, Nicolas Metzdorf, qui était vendredi midi l'invité d'Elisabeth Noir, une émission également disponible en podcast, audio et vidéo sur notre site internet www.rrb.nc. Et puis dans le mag des sports, demain midi, nous parlerons de la Coupe du Monde de golf amateur avec des qualifications qui se disputent en Calédonie. Après Dimbéa, Tina et Deva, une dernière épreuve se déroulera le 21 juin à Lawangui. La finale aura lieu le 26 juillet à Deva pour aller jouer le tournoi en Égypte au mois d'octobre. Nous en parlerons avec nos invités Corinne Atoy et Laurent Heut, organisateurs. Nous sommes le dimanche 15 juin, c'est évidemment le dimanche de la fête des pères. Beaucoup de papas ont été gâtés aujourd'hui à cette occasion, des cadeaux et des petites attentions. Illustration avec des témoignages recueillis au marché municipal de Nouméa.
La fête des pères, le 15, je vais faire des dessins.
C'est cool, la fête des pères, on va surtout faire plaisir à sa maman, puisque c'est les femmes qui contrôlent, hein, tu sais, on est là pour elles.
C'est la fête des papas.
Aujourd'hui, on va faire le plat que notre papa il voudra avec les parents à mon père.
On va cuisiner de la salade de poisson, la fête des pères. Papa, il joue toujours avec moi.
Les papas à l'honneur ce dimanche sur RRB. Vous avez également pu entendre ce midi sur notre antenne ces témoignages de pères de sportifs célèbres. Jean Yengo, papa de Yolène Yengo, ou encore Taofi Fenua Falatea, père de Yoram Moefana. Et on vous propose ce soir d'entendre encore un poème, celui de la petite Evelyne au micro de Kalinda Boako.
Papa, mon cœur me dit aujourd'hui c'est la fête, mais quelle fête? La fête des mamans, non. La fête des rois, non. La fête des rois, le roi de mon cœur, c'est mon papa à moi. Bonne fête, papa.
Voilà pour cette bonne fête à tous les papas. Et sur RRB, l'antenne était à vous ce matin avec vos dédicaces dans l'émission spéciale Canal Folie, comme tous les dimanches de 8h à midi. Dédicace à l'antenne pour une très belle fête des pères. À 17h passées de 57 minutes, une page de publicité dans ce journal avant de voir l'actualité nationale et internationale. À tout de suite.
Attention, plus que quelques jours avant le tirage au sort du million en bons d'achat sur RRB. N'attendez pas le dernier moment pour vous inscrire. Envoyez maintenant RRB au 40-20. Il n'y a pas de liste préétablie. Le ou la gagnante décidera comment dépenser son million. Et puis, il y a toujours 100 000 francs à gagner en bons d'achat. Si vous êtes le 1500e SMS, pile sur le compteur. Alors n'hésitez plus. Envoyez maintenant RRB au 40-20. Chaque SMS compte pour le tirage du million le 4 juillet à 14h. 371 francs par SMS. Règlement du jeu disponible à l'accueil de la radio. Saisissez votre chance. Envoyez RRB au 40-20.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonceslegales@rrb.nc ou au 25 46 46. RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
La suite d'InfoSoir, c'est avec vous, Michael Juneski.
Emmanuel Macron est attendu au Groenland aujourd'hui. Avant de se rendre au sommet du G7 au Canada, le chef de l'État s'invite dans la bataille géopolitique autour de cette immense île arctique sous tutelle danoise, mais convoitée et menacée d'annexion depuis des mois par Donald Trump, le président américain. Dès son arrivée, Emmanuel Macron entend bien marquer les esprits et adresser un message clair au président américain. Jacques Serret pour Europe 1.
Après avoir martelé ce message lors du sommet consacré aux océans à Nice,
les abysses ne sont pas à vendre, pas plus que le Groenland n'est à prendre, pas plus que l'Antarctique ou la haute mer ne sont à vendre.
Emmanuel Macron va s'afficher ce dimanche aux côtés du Premier ministre groenlandais et de la Première ministre danoise, une manière on ne peut plus claire de soutenir la souveraineté de ce pays du royaume du Danemark. Il s'agit de démontrer par sa présence la solidarité européenne, décrypte l'un de ses proches. Sa venue est une réaffirmation des principes de la Charte des Nations Unies, poursuit le même. Le président y rappellera que la France soutient l'intégrité territoriale et l'inviolabilité des frontières du Groenland. Un signal envoyé à Donald Trump qui convoite très sérieusement ce qui constitue la plus grande île du monde. Pour autant, l'Élysée indique qu'il ne faut pas y voir une dimension personnelle avec le locataire de la Maison Blanche. Et pour cause, Emmanuel Macron retrouvera Donald Trump ce soir au Canada pour participer au sommet du G7.
Un rendez-vous qui aura donc lieu demain matin pour nous, Jacques Serret du service politique d'Europe 1. En bref, aux États-Unis, Donald Trump a lui déployé comme prévu une grande parade militaire. 7000 soldats, 150 véhicules et une cinquantaine d'avions qui ont défilé à Washington pour les 250 ans de l'armée américaine. Une parade qui, hasard du calendrier ou pas, s'est déroulée le jour de l'anniversaire de Donald Trump, le président américain qui fête ses 79 ans. L'escalade de la violence se poursuit entre Israël et l'Iran. Troisième nuit de tension entre les deux pays qui se rendent coup pour coup. La contre-offensive iranienne se fait de plus en plus meurtrière. Une femme israélienne est morte dégagée des décombres d'un immeuble touché près de Haïfa par un missile iranien. Un soldat israélien a aussi été tué selon l'État hébreu qui annonce également avoir répliqué en touchant de nouveaux sites stratégiques à Téhéran. C'est dans ce contexte qu'Emmanuel Macron s'est entretenu avec le président iranien, lui demandant de revenir rapidement à la table des négociations sur le nucléaire et l'exhortant aussi à libérer deux otages français détenus par le régime iranien dans des conditions inacceptables depuis plus de 3 ans selon l'Élysée. La France qui historiquement a toujours été aux côtés d'Israël, des liens indéfectibles selon Martin Garagnon, porte-parole du parti Ensemble pour la République.
On a toujours été très clair sur position vis-à-vis d'Israël. Israël est un allié, le peuple israélien est un peuple ami, c'est la base en fait de toute discussion, mais entre alliés vous pouvez aussi avoir des désaccords, et c'est même le rôle d'un allié de vous dire quand on estime que vous allez trop loin ou que vous faites une erreur, y compris contre vos propres intérêts. Emmanuel Macron, à ce titre-là, est un très bon ami d'Israël et ne perd pas de vue que l'objectif, c'est évidemment la sécurité et la sauvegarde du peuple israélien et de l'État d'Israël. Mais sur le poids qu'Emmanuel Macron peut avoir, ce qui compte, c'est le poids que la France et donc l'Europe pourraient avoir. Et donc ça pose aussi la question de la souveraineté européenne. Je rappelle que depuis le départ de l'Angleterre de l'Europe, la France est la seule puissance nucléaire en Europe et qu'à ce titre, il y a évidemment un rôle que l'on doit jouer pour que l'Europe soit une voix qui porte sur les relations internationales et que l'Europe soit assise évidemment aux tables de discussion.
Martin Garagnon, porte-parole du parti Ensemble pour la République. Dans ce contexte, en métropole, les préfets vont devoir accroître la vigilance, notamment autour des lieux de culte, de rassemblements festifs ou d'intérêts israéliens et américains, consigne donnée par Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur. Bruno Retailleau qui d'ailleurs prend la parole dans le journal du dimanche sur le sujet de l'insécurité. Il dit vouloir généraliser les courtes peines de prison pour les mineurs, dès le premier délit, 1 ou 2 semaines de prison peuvent avoir un effet dissuasif, explique le ministre de l'Intérieur. Cette semaine, l'invité du grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos sera Hervé Morin, actuel président centriste de la région Normandie et ancien ministre de la Défense. Une émission que vous retrouverez sur l'antenne d'RRB demain soir. Ce sera juste après Info Soir, votre grand journal de 17h45. L'actualité nationale, un nouveau coup dur pour Nicolas Sarkozy. L'ancien chef d'État n'est plus chevalier de la Légion d'honneur. La plus haute décoration honorifique française lui a été retirée après sa condamnation dans l'affaire dite des écoutes. Il était aussi exclu de l'Ordre national du mérite. Deux exclusions lourdes de symboles, mais automatiques lors d'une condamnation supérieure ou égale à 1 an de prison ferme. À Paris, le Salon du Bourget, 55e édition, s'ouvre demain soir. Un rendez-vous incontournable de l'aéronautique pour une filière toujours sous tension. Tension commerciale autour des droits de douane, mais aussi des difficultés pour se remettre en ordre de marche après les ravages de la crise Covid. Les retards de livraison s'accumulent encore. Aurélien Fleureau pour Europe 1.
Plusieurs dizaines d'Airbus sont en attente d'être livrés. Les compagnies aériennes piaffent d'impatience pour renouveler leur flotte ou augmenter leur rotation. Mais voilà, chaque petit grain de sable met tout à l'arrêt, comme l'explique Jérôme Bouchard, spécialiste aéronautique du cabinet Oliver Wyman.
Un avion, c'est à peu près 1 million de pièces. Bien sûr, un avion ne peut pas quitter sa zone de production sans avoir ce 1 million de pièces au complet et correctement montées.
Il manque parfois des moteurs. Les fabricants ne sont pas nombreux et les problèmes d'approvisionnement sont loin d'être résolus. Il manque aussi des toilettes. Cela peut surprendre, mais cela s'explique.
C'est vrai que ça peut paraître extrêmement trivial, mais là aussi, nous sommes dans un avion. Des toilettes ont besoin d'être certifiées. Les toilettes d'un avion n'ont malheureusement rien à voir avec nos toilettes à la maison. Elles sont technologiquement beaucoup plus compliquées.
Et cela concerne surtout les A350, des contretemps fâcheux, mais Airbus se veut optimiste. L'objectif de livrer 820 appareils cette année reste d'actualité.
Aurélien Fleureau pour Europe 1. Eux se sont déjà envolés vers leur nouvelle mission. 18h05, la pub avant de voir toute l'actualité sportive et le PSG qui a la Coupe du Monde des clubs dans le viseur.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La fin de votre journal, le sport avec vous, Michael Gineski.
Et à la une du sport, du football, avec cette compétition voulue par la FIFA, la Coupe du Monde des clubs. Nouvelle formule, 32 équipes qualifiées, dont des clubs européens, mais aussi brésiliens, japonais, coréens. Un seul club français, le PSG, sacré en Ligue des Champions cette année. Les Parisiens se sont donc envolés aux États-Unis où les matchs se déroulent. Paris qui disputera sa première rencontre en Californie. Ce sera face à l'Atlético de Madrid demain matin. Cyril de la Morinerie pour Europe 1.
Les Parisiens sont sous les cocotiers et le soleil de Los Angeles. Ils vont affronter l'Atlético de Madrid d'Antoine Griezmann ce soir. Le Paris Saint-Germain qui se retrouve dans le groupe B en compagnie également du club brésilien de Botafogo et de la formation américaine de Seattle. Et s'ils vont jusqu'en finale prévue le 13 juillet prochain sur la côte est des États-Unis, les coéquipiers de Marquinhos disputeront au total 7 matchs. Après la saison pleine vécue par les joueurs parisiens, notre consultant Alain Giresse tire la sonnette d'alarme.
Je me demande comment ils vont faire les joueurs. C'est du non-stop. C'est 12 mois sur 12. Il n'y a plus d'arrêt. Je ne sais pas à quel moment ils vont craquer. À l'automne, à l'hiver. Dembélé s'est d'ailleurs blessé lors de ce match avec l'équipe de France. C'est au-delà de tout ce qu'un athlète même préparé puisse supporter quand même.
Les joueurs de Luis Enrique joueront ce soir au Rose Bowl de Pasadena, au nord-est de Los Angeles. C'est dans cette enceinte que l'équipe de France d'Henri Michel avait décroché la médaille d'or au JO de 1984. Le vainqueur de la Coupe du Monde des clubs empochera 115 millions d'euros. De quoi motiver le PSG à faire jouer ses meilleurs éléments, même s'ils sont fatigués.
Un match du Paris Saint-Germain contre l'Atlético Madrid à suivre donc demain matin. Coup d'envoi à 6h pour nous. Du rugby, les barrages des demi-finales du top 14. Le RC Toulon a fait plier Castres pour continuer l'aventure. Succès des Toulonnais 52-23. Le vainqueur de cette confrontation ira défier l'Union Bordeaux-Bègles en demi-finale. L'autre demi-finale se disputera entre Bayonne et Toulouse. On passe au sport mécanique avec la Formule 1.
Vos stations Shell et Pacific, partenaires des pages spéciales Grand Prix de Formule 1 sur Radio Rythme Bleu.
Avec le Grand Prix du Canada ce week-end, et c'est le Britannique George Russell qui a signé la pole position au volant de sa Mercedes. Meilleur temps pour sa première pole position de la saison. Il s'élancera devant la Red Bull de Max Verstappen et la McLaren d'Oscar Piastri, le leader du championnat du monde. Côté français, Isaac Hadjar s'était classé 9e, mais après une pénalité, il devra s'élancer de la 11e place. Esteban Ocon 15e et Pierre Gasly 19e des qualifications. Une réelle déception, selon Pierre Gasly.
J'ai juste pas de grip, je glissais partout, et j'avais zéro grip et je pouvais pas refaire le temps que j'allais faire sur le set d'avant. Donc non, c'est clair que c'est relou parce que ouais, il y avait très clairement potentiel pour essayer d'aller se bagarrer proche du top 10.
Le départ du Grand Prix du Canada sera donné demain matin à 5h, heure de Nouméa.
C'était votre page spéciale Grand Prix de Formule 1 parrainée par Shell et Pacific. Shell, à nouveau partenaire innovation de la Scuderia 2025. Sélectionnez le meilleur pour votre véhicule.
Les sports mécaniques toujours, ce sont aussi les 24 heures du Mans Auto qui ont débuté la nuit dernière. Le départ a été donné à 1h du matin sur le circuit du Mans. La course d'endurance se poursuit jusqu'à 1h du matin. Évidemment, la nuit prochaine, ce sont les voitures de l'équipe Ferrari, double tenante du titre qui occupent actuellement la tête de la course. Du cyclisme avec Tadej Pogacar qui roule vers la victoire sur le critérium du Dauphiné. 8e et dernière étape ce soir, le Slovène, leader du classement général, possède une minute d'avance sur le Danois Jonas Jonas Vingegaard. De l'escrime, les championnats d'Europe qui continuent après les titres décrochés aujourd'hui par les Français Eva Lacheret et Rémi Garrigue. Et puis enfin, sur l'US Open de golf, l'Américain Sam Burns est encore en tête à 4 coups sous le par à l'issue du 3e tour. Le Français Victor Pérez est retombé à la 11e place.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu. À Boulou Paris, Saraméa, La Foix, Moindou, Farino, c'est le sang.
Et retour à l'actualité sportive en Calédonie après le départ de la New Caledonia Groupama Race dont nous avons parlé dans la première partie de ce journal. Les coureurs, eux, avaient rendez-vous ce dimanche pour le trail des Cagoules, Anna Colombo.
Et oui, ils ont souffert, mais la récompense était d'autant plus belle. Les trailers ont dû braver la pluie pour effectuer la course. Cette 14e édition se déroulait non pas au parc de la Rivière Bleue, mais bien à Boulou Paris, en baie de Bouraquet. Près de 1200 participants étaient engagés dans 4 parcours avec des distances différentes. Laurent Deveau, le directeur de course du trail des Cagoules, se dit satisfait de la journée, même s'il espère une météo plus clémente l'année prochaine.
Ça s'est globalement très bien passé, surtout avec les conditions dantesques qu'il y a eu ce matin sur le départ du Felspack à 5h du matin sous une pluie battante. Bah, malgré tout ça, on a très très peu d'abandon alors que le parcours a été rendu excessivement difficile. Un parcours pourtant magnifique, hein, mais c'était très très difficile avec beaucoup de coureurs qui glissaient tout le temps. Il est tombé énormément de pluie, c'était très très boueux malheureusement. Ça a gâché un petit peu la fête au niveau des paysages, mais ça a rendu les coureurs encore plus forts, je trouve. Certains pensaient que la terre du sud, ça glissait. Ils n'avaient pas vu la terre noire de Boulou Paris. C'est pareil, ça glisse bien quand c'est mouillé.
Côté classement, sur le trail Sfax 62 km, c'est Antoine Barguin qui l'emporte en 6h19 et 51 secondes. Il devance Gabriel Espada et Leslie Nowicki. Sur l'épreuve de 24 km terre de running, Alexandre Bressy a terminé en tête en 2h05 21 secondes d'effort devant Antoine Lebel et Éric Mathieu. Natalia Prado finit meilleure féminine en 2h19 58 secondes.
Le sport hors du territoire, le début des championnats de France de natation est déjà. Maxime Grousset qui a remporté sans surprise aujourd'hui la finale du 50 mètres papillon en battant son propre record national sur la distance 22 secondes 70 centièmes. Un autre Calédonien, Ethan Dumenil, a terminé 6e de cette même finale élite chez les plus jeunes. Chris Anderserda a quant à lui terminé 5e de la finale C. Les Océania de tennis de table junior se poursuivent avec des Calédoniens engagés en Nouvelle-Zélande chez les féminines. En moins de 19 ans, Ivanita Martin et Rel Barbu, et chez les garçons, Raphaël Keane et Mathis Pindon. Et puis en karaté, une médaille d'argent pour la Calédonienne Célia Farr. Après les Océania, elle participait à la Coupe de France Zone Sud. Elle a donc terminé à la 2e place en junior, moins de 66 kilos. Enfin, des jeunes Calédoniens qui se sont distingués au championnat de France handisport cycliste en métropole. Raphaël Beaugilet, associé au licencié du VCC Mandor Hugo Pommelet, qui a terminé avec la médaille d'argent. Et puis une 2e place également pour Juliette Perrochet, associée à Maïlis Bonas, également du club du VCC Mandor. À 18h passées de 12 minutes, on termine ce journal avec la météo. La météo dans un instant. On retrouve notre jingle.
Ça arrive, le jingle a disparu.
Petit problème technique. Eh bien, écoutez, je vous propose le temps qu'on retrouve le jingle. Pierre, bonsoir. On va pouvoir défiler dans un instant.
On est bon pour le jingle.
Allons-y.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
On peut y aller. Pierre, bonsoir. Les détails de cette météo à venir.
Le retour du soleil. Alors, cette nuit, progressivement, les éclaircies s'élargisseront et avec encore quelques averses possibles sur l'ouest et la pointe sud. En fin de nuit, des plaques de nuages bas remonteront sur l'extrême sud. Le vent de sud-sud-est soufflera autour des 15 nœuds avec quelques accélérations sur la pointe nord-ouest et au Loyauté. Sur l'est, il oscillera entre 10 et 15 nœuds et se rapprochera localement des 10 nœuds. Les températures minimales baisseront nettement avec 15 à 17 degrés à l'intérieur des terres et 17 à 21 degrés sur le littoral. Demain matin, le temps sera généralement sec. Le soleil l'emportera largement avec quelques nuages bas qui intéresseront les pointes nord et sud. Le vent de secteur sud-est soufflera autour de 15 nœuds, voire jusqu'à 20 nœuds sur le nord-ouest et l'extrême nord. Sur l'est, il restera un cran en dessous.